l'exposé qui a été présenté sur le dépliant s'intitule La Troisième Tribu, que j'ai un peu élargi à partir du titre du livre de Shlomo Sand, Comment le peuple juif est inventé, et en mettant sous titre que je traiterai préférentiellement, mais pas uniquement, de l'origine des juifs askénazes. Est-ce que, comme le prétendait Arthur Koestler, c'est la 13e tribu d'Israël? Sachant que sur les deux, de toute façon, sur les 12, de toute façon, d'après ce que j'ai lu, il y en a deux qui restent en Israël et puis il y a les tribus perdues. C'est encore une complexité que j'ai pas complètement amenée. Tu me passes ou pas?
Je passe.
Alors pourquoi ce questionnement? Parce que bon, à la suite des discussions que j'ai eues avec le cercle zélotique et en particulier avec Jean-Luc qui me suggérait de justifier cet exposé. Je commence par le questionnement, je vais dire pourquoi ça a à voir avec la zélotique. Alors pourquoi ce questionnement? Ben, en fait, dans les années 90, j'ai rencontré le livre d'Arthur Koestler, La 13e tribu, que je vous conseille. Ça a été publié dans le livre de poche, c'est très facile à lire. Et c'est vraiment intéressant. En fait, le livre de Shlomo Sand est une extension, il part un peu de la même idée, c'est un juif qui écrit sur son pays et qui le critique, évidemment. Et c'est ce livre-là qui m'a servi réellement de base. Et dans les années 2010 plutôt, je suis tombé sur un article, d'abord, et puis ensuite plusieurs, du généticien Eran Al-Haye, qui est un généticien à l'origine de Tel Aviv et qui est allé travailler aux États-Unis et qui a publié justement des articles sur ces juifs askénazes et comment est-ce qu'ils seraient connectés avec les Khazars. Et on va parler bientôt de ce que sont les Khazars. Alors juste une mention pour dire que le bouquin de Shlomo Sand a été critiqué. L'orientaliste Charles Bartal, je vous l'ai mis là, Sand ne fait que recycler des idées et arguments utilisés avant lui par les idéologues arabes, palestiniens et non-palestiniens pour délégitimer les arguments du sionisme. C'est un peu court comme critique, à mon avis. Il y a, à côté de ça, des intellectuels comme Esther Benbassar, Maurice Sartre ou Michel Vinocq, qui ont eu l'occasion de débattre avec Shlomo Sand. Il y a un article qui était paru dans l'Histoire en 2009, que je vous conseille, qui est très bien. Alors, ils ont des critiques à la marge, mais globalement, ils reconnaissent la qualité de l'ouvrage. Donc, on passe à la diapo suivante. Alors, quelle relation avec la zététique? En fait, la relation avec la zététique, elle vient du fait que la création du sionisme, c'est une reconstruction historique. On va voir comment cette reconstruction historique a été opérée. En particulier, elle utilise, on le verra, la Bible comme source historique. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de sceptiques ici, mais moi, ça me pose problème. Je ne sais pas pourquoi, mais la Bible, c'est un livre qui a été écrit à diverses époques, dont la validité des textes n'est pas est loin d'être universellement reconnue. Et donc, utiliser la Bible comme source historique de l'existence du peuple juif, c'est un peu gênant quelque part. Le principal mythe qui a été utilisé par le sionisme, c'est le mythe du peuple juif qui aurait été préservé de ses origines jusqu'à nos jours, c'est-à-dire qu'il serait resté une tribu. Encore maintenant. Quels que soient les juifs de la diaspora, ils seraient tous issus des juifs de Juda, du royaume de Juda. Le deuxième mythe qui a été utilisé par le sionisme, c'est le mythe de l'exil forcé des juifs. Et c'est bien argumenté, notamment par Shlomo Sand, mais c'est reconnu par les trois historiens dont je vous ai parlé, c'est effectivement un mythe. On verra pourquoi c'est un mythe et qu'est-ce qui a fait que les Juifs sont partis en diaspora. Et puis le troisième mythe, qui est un mythe très courant, que j'ai entendu ici, c'est le mythe du non-prosélytisme des Juifs. C'est vrai, aujourd'hui, encore que c'est toujours possible de se convertir à la religion des Juifs, hein. Toujours maintenant, même les rabbins qui sont un peu réticents, a priori, acceptent très bien les conversions. Le parcours est long et difficile, il paraît, mais c'est toujours possible de se convertir. Et en fait, on verra que le prosélytisme des Juifs a existé comme dans toutes les religions. Ensuite, on va définir un peu notre objet. L'objet de l'étude, les Ashkénazes, qui sont-ils ? Alors, ils désignent les Juifs de l'Europe occidentale, centrale et orientale, de langue germanique. Le Yiddish est un dialecte qui est qualifié de mauvais allemand par ceux qui les critiquent beaucoup, mais qui a été la langue d'échange des Juifs d'Europe centrale et orientale. Les Ashkénazes se différencient des Séfarades, qui sont, eux, les Juifs originaires d'Espagne, et des Juifs des communautés proches orientales, qui sont dits des Mitraïmes. Je vous ai mis les pluriels, apparemment, ça doit venir de l'hébreu, mais le pluriel s'écrit avec un IM, terminal. Donc on parle d'Ashkénazim, de Séfardim et de Mitraïm. D'après la Genèse, on va quand même revenir un petit peu à la Bible. D'après la Genèse, Ashkénaz est un des descendants de Japhet, qui était un fils de Noé. Ça remonte à loin. Le Talmud de Babylone identifie Gomer, le père d'Ashkénaz, à Germania. Mais c'est important de comprendre que Germania ne désigne pas l'Allemagne. Même si vous cherchez sur Internet Germania, vous trouverez que la référence à l'Allemagne. Germania ici désigne une région qui est située au nord de la Syrie. Je ne sais pas pourquoi ils ont utilisé ce terme, mais enfin bon, voilà. Et surtout, donc, les Ashkénazes, ils représentent 80% des Juifs à l'échelle mondiale. Ce n'est pas une petite communauté. En fait, ils représentent l'essentiel des Juifs. Les Juifs d'Amérique sont issus des Juifs d'Europe centrale et orientale qui ont émigré aux États-Unis. La position du problème, c'est donc quelle est l'origine de ces Juifs Ashkénazes, parce qu'ils ne sont pas installés, a priori, en Palestine. Alors, il y a eu deux hypothèses qui ont été émises. L'hypothèse rhénane, j'ai mis le terme anglais qui est utilisé par dans les articles anglais, qui postule que en 70, en 70 après Jésus-Christ, 70 de l'ère commune, à l'invasion par les Romains de la Palestine, les Juifs auraient été expulsés de leur terre et auraient été forcés à l'exil. Il y a un deuxième exil qui a lieu au 7e siècle devant l'avancée des Arabes, et il semble que d'après ce que j'ai lu, ça se soit résolu vers une émigration aussi vers l'Europe. Et les destinations de cette migration, c'est l'Italie, la Gaule, et ensuite la vallée du Rhin. Et au XVe siècle environ, 50 000 Juifs au milieu de 400 000 Allemands ont migré vers la Pologne, parce que ça représente un nouveau territoire, et parce que le Commonwealth polono-lituanien était beaucoup plus tolérant envers les Juifs, qui étaient à l'époque l'objet de persécutions dans leur terre d'origine, qui était donc l'Allemagne principalement, mais aussi en France. Alors ça, c'est une hypothèse. On verra qu'il y a des arguments qui la soutiennent et des arguments qui sont qui y sont opposés et certains arguments qui sont rédhibitoires, en particulier les arguments démographiques. Donc, il y a une autre hypothèse qui s'est fait jour, qui aurait été que les populations juives en provenance d'Israël, comme ça se faisait beaucoup, il y a eu des migrations un peu partout, et ces populations juives, eh bien, elles ont rejoint d'abord la Turquie, puis le Caucase, où elles ont rencontré les Khazars. Et ces échanges entre les Khazars, dont on va voir qu'ils sont, et les Juifs, ont conduit, parce que maintenant c'est quasiment un fait historique, à la conversion des Khazars vers la religion juive. Il y a une autre source de migration dans ce cas-là, c'est la Mésopotamie. Il faut savoir que lors de la destruction du premier temple par Nabuchodonosor, c'est vers 500, je crois, j'ai une chronologie tout à l'heure que je vous montrerai, donc le peuple juif aurait été emmené en Mésopotamie, puis je ne sais plus quelle année, Cyrus aurait autorisé les Juifs à retourner en Palestine, mais il y a une partie des Juifs qui seraient restés en Mésopotamie. À la fin de l'Empire Khazar, au XIIIe siècle, à la suite des invasions mongoles, principalement, la fuite des Khazars juifs, que certains historiens ont estimé à environ 500 000, a eu lieu vers l'Ukraine et vers la Pologne. Alors, c'est une hypothèse, et on verra pourquoi c'est une hypothèse. Alors, qui sont les Khazars? C'est un peuple donc apparenté aux Turcs, ayant migré vers l'ouest avec les Huns, qui étaient d'abord des vassals des Huns. Et puis, à la chute de l'Empire Hun, ce sont les Khazars qui ont pris la dominance sur la région. Le consensus n'est quand même pas complet sur l'origine des Khazars, même si un historien américain, Douglas Dunlop, les a considérés comme apparentés aux turcophones du Xinjiang, en Chine, en s'appuyant sur les textes du 7e siècle. D'après les Russes, il s'agirait d'un peuple indigène de Cisco-Caucasie. Alors, une petite note sur les Russes. Il paraît que Staline n'aimait pas beaucoup, et pour tout dire même, détestait l'hypothèse Khazar, et qu'il a fait des pieds et des mains pour rendre cette hypothèse invisible. Ils ont laissé très peu de traces. Pourquoi? Parce que ce sont d'abord des peuples, c'est un peuple nomade, hein, leur nom signifie errant en langue turque. C'est un peuple nomade qui s'est sédentarisé, mais qui a gardé une partie de ses traditions, en particulier des yurts. Et donc la ville dit-il, d'après les textes, principalement des chroniqueurs arabes, la ville des textes était constituée de yurts qu'ils pouvaient déplacer. Et seul le palais du Kagan, le Kagan c'était le roi des Khazars, était en dur. Et cette capitale, elle se situe en bouchon de la Volga, et elle s'appelle Itil-Ouatil, on le verra sur une carte tout à l'heure. Elle a été submergée, ce qui fait qu'on n'a aucune trace, il y a longtemps, hein, semble-t-il, avec la montée de la Caspienne. En 83, pour faire barrage aux invasions en provenance du Nord, des Russes et des Tchétchènes notamment, c'était des tribus d'origine scandinave, des Vikings en quelque sorte, qui faisaient des razzias. Eh bien, ils ont construit une forteresse dont le nom était Tarkel, et cette forteresse a été noyée sous un barrage dans les années soviétiques. Le réservoir de Tsinliang sur le Don. Mais avant ça, Mikhaïl Artamonov a eu l'occasion, c'est le principal archéologue, à avoir fouillé le site de Sarkel, qui maintenant est évidemment totalement inaccessible. sauf peut-être avec des plongeurs. Voilà, et comme je disais, il y a de nombreux témoignages, j'en ai mis que quelques-uns là. Une Finlande qui revient souvent, entre autres aussi l'évêque Sébéos d'Arménie. Alors, naissance, vie et mort de l'Empire Khazar. En fait, leur présence dans les chroniques, elle est attestée du 6e au 12e, au 13e siècle. Mais il faut savoir qu'en fait, ils étaient probablement présents là bien plus tôt. Il y en a qui estiment qu'ils étaient là vers le 2e siècle de l'ère chrétienne. Ils étaient déjà dans la région. C'est un peuple à l'origine, enfin, c'est un peuple de pêcheurs et de paysans. Au moment de l'été, ils transportent leur yacht en dehors de la capitale et puis ils vont cultiver leurs champs et élever leur bétail. Mais c'est aussi un peuple de cavaliers, de cavaliers de grande classe et qui vivent de razzia. Ils se sont alliés à Byzance et ont constitué un rempart très efficace contre l'invasion islamique. Shlomo Sand indique que la chute de Constantinople aurait été beaucoup plus rapide s'il n'y avait pas eu les Khazars. C'est-à-dire que les Arabes auraient pu contourner Constantinople par le nord et prendre Constantinople entre deux feux. Comme il y avait les Khazars qui étaient là, ils sont là les Khazars, hein. L'Empire Khazar est là et puis les tribus qui ont été les Tchénèques sont là. Les tribus ce contournement par le nord était impossible puisqu'il était arrêté par les Khazars et les Khazars ont participé à la défense de Constantinople puisque d'après la chronique ils ont fourni 40 000 hommes à l'empereur byzantin pour l'aider à sa lutte contre l'Empire sassanide. En échange, Héraclius a offert sa fille au Kagan. Et un peu plus tard, c'est dans l'autre sens, c'est Constantin V qui épouse une fille du Kagan et qui va donner à Constantin un fils qu'on appellera Léon le Khazar. L'apogée de l'Empire Khazar se situe à peu près au 9e siècle et ils ont été sur le passage de la route de la soie et ça a certainement participé à leur richesse. Alors ils adoptent la religion juive pour des raisons politiques, principalement pour éviter de se retrouver vassaux soit des chrétiens de Constantinople, soit de l'Empire perse à l'époque dominé par les Sassanides, c'est-à-dire une dynastie arabe, une dynastie musulmane. Ils adoptent cette religion, pas comme ça. On verra, il y a un historien juif qui a publié un texte sur cette conversion, mais il y a des juifs qui viennent de Crimée et de Byzance et qui expliquent la religion juive au Khazar. L'Empire décline au Xe siècle sous les assauts de Kiev, c'est-à-dire des tribus russes et des Tchénèques qui deviennent très fortes, et ils deviennent les vassaux de l'Empire russe naissant, qui a commencé, je vous le rappelle, à Kiev, avant de rejoindre Moscou. Et finalement, au XIIIe siècle, l'Empire Khazar est complètement détruit, et ne laisse pas beaucoup de traces. D'après, encore une fois, d'après une hypothèse, les Juifs Khazars s'enfuient vers Kiev et la Pologne, et une des questions qui se pose, c'est le nombre de ces Juifs Khazars, quelle proportion est représentée parmi les émigrés. Les traces écrites des Khazars convertis, elles ne sont pas nombreuses, il y en a principalement deux. Un échange de lettres entre un médecin juif conseiller à la cour du calife de Cordoue, Abdel Rahman, je ne sais plus qui a parlé là, il n'y a pas longtemps, qui c'est Tilda, et Joseph, fils d'Aaron, et roi de Khazari dans les années 950-960. Et donc, Khazari demande, il a entendu parler de ce royaume juif prospère, ce qui n'est pas, semble-t-il, une attitude des Juifs d'avoir un royaume prospère. Ça c'est peut-être à moduler, mais c'est comme ça que c'est présenté dans les textes. Et il demande de quelle tribu est le roi, comment se respecte le sabbat et des tas d'autres informations sur sa pratique de la religion juive. Et le roi Joseph répond, nous sommes des descendants des fils de Japhet. Et je vous rappelle qu'une des hypothèses, enfin, un des textes mentionne que Ashkenaz est le fils de Japhet. Et c'est peut-être une des sources qui suggérerait une relation entre les Khazars et les Ashkenazes. Bon, le reste, c'est vous pouvez lire. L'échange a été imprimé à Constantinople, il date quand même de 500 ans avant. Ils ont d'abord été considérés comme des faux, parce qu'ils ont été recopiés de nombreuses fois, il n'y avait pas d'imprimerie à l'époque, hein, je vous rappelle. Donc, ça a été réécrit, enjolivé, etc. Et il y a une version longue qui semble être effectivement un faux, il y a une version courte qui apparemment est solide. Elle est reconnue de Rabbi Judah Lévi, qui est une autorité dans les textes juifs, et qui a écrit le Kuzari, et dans son introduction, il décrit la conversation du roi Khazar, ce qu'on appelle la triple disputation théologique, où le roi Khazar, avant de faire un choix, offre aux chrétiens, aux musulmans et aux juifs de défendre leur religion pour savoir laquelle choisir. Alors il y a des tas d'histoires. Ceux qui sont intéressés, vous lirez dans Shlomo Sand. Il y a des tas de variantes. Il y en a une qui indiquerait que le juif un peu fourbe aurait tué le représentant musulman pour éviter d'avoir de la concurrence. À prendre avec les 27, évidemment. Gérard Naon, dans l'Encyclopédia Universalis, mais il y a d'autres, juste cette source-là, considère que cette correspondance est authentique. Donc c'est le premier texte. Et le deuxième texte, qui est beaucoup moins contesté, c'est une lettre en hébreu d'un khazar juif, qui a aussi vécu à la cour du roi Joseph, et qui a été découverte dans les documents de la Geniza du Caire. Alors qu'est-ce que c'est qu'une Geniza ? Une Geniza, en fait, c'est un endroit où les juifs conservaient les textes qui contenaient le nom de Dieu, parce que ces textes-là ne pouvaient pas être détruits. Donc, bon, ils n'en avaient plus l'utilité, donc ils les mettaient de côté dans un local qu'on appelait la Geniza. Donc dans la Geniza de Caire, quand on a fouillé ces documents, on a retrouvé cette lettre en hébreu d'un khazar juif ayant vécu à la cour du roi Joseph. Il confirme les principaux éléments de la lettre du roi Joseph et il indique que c'est l'arrivée d'adeptes du judaïsme en provenance d'Arménie, d'Irak, du Khorasan, de l'Empire romain d'Orient, où les juifs auraient été contraints à la conversion au christianisme. C'est souvent un problème avec la religion chrétienne, hein. Ils pratiquent la conversion forcée, mais ils ne sont pas les seuls, on va voir. Et qui auraient amorcé la conversion des Khazars en fuyant en Khazarie. Alors les éléments de la controverse, c'est donc, je vous l'ai un peu indiqué au début, c'est donc le préjudicialisme qui mentionne une origine sémitique unique de tous les juifs de la diaspora, qui, de ce fait, se trouverait le seul peuple à l'échelle de la planète à avoir réussi ce prodige de garder sa pureté racio-ethnique au cours des âges. Ça paraît tout de même un peu contestable. Le mythe de l'exil forcé des Juifs, le mythe du non-prosélytisme, et je vais rajouter un quatrième point, qui est le miracle démographique des Juifs. De 50 000 au 15e siècle en Allemagne, on aboutit à 7 millions à la fin du 19e, début du 20e, en Pologne, Russie, Lituanie, etc. Et ça, malgré les épidémies, les famines, les restrictions imposées aux Juifs, les pogroms, etc. On verra qu'effectivement, ça pose problème, ce miracle démographique. La résistance à l'idée de l'origine des Khazars. Le professeur Charles Stanfer, qui est de l'université hébraïque de Jérusalem, conteste même l'existence de la conversion. Il ne conteste pas l'existence des Khazars, mais considère que la conversion des Khazars au judaïsme n'est pas valide en contestant tout simplement les textes épigraphiques. On a vu que ces textes semblent valides et donc... bon, on ignorera Charles Stanfer. L'hypothèse Khazar remet en cause l'origine sémitique des Ashkénazes et donc de l'unicité du peuple juif, et ça a évidemment des conséquences pour le sionisme. Vous imaginez bien que s'il n'y a plus une tribu unique qui aurait droit à la terre d'Israël, ça gêne un peu quelque part les idéologues. On ne va pas en dire plus parce que mon but n'est pas de faire de la politique, mais d'essayer d'amener des arguments et de raconter l'histoire. Surtout que, d'après Kessler, l'hypothèse de l'origine khazar invalide même l'idée d'antisémitisme. Si les juifs d'Europe orientale ne sont pas sémites, qu'a à faire l'antisémitisme maintenant? Je vous ai mis, on ne va pas aller lire, c'est marqué en rouge, mais je vous ai mis quelques auteurs qui sont en faveur de l'origine des khazars. Ernest Renan, il est très intéressant son texte, on le trouve assez facilement. Moi, je l'ai lu en livre électronique, mais on le trouve très facilement, ça coûte pas cher. C'est une conférence qu'il a donnée en 83, et où il explique tout un tas de choses sur les juifs, en particulier que les conversions massives à l'époque romaine enlèvent au judaïsme toute justification ethnologique, et ensuite il parle des Khazars. Ce que je ne savais pas, et j'ai été obligé de me replonger parce que je l'avais lu, le texte de Marc Bloch. Et donc je suis allé rechercher dans le texte de Marbeau, et c'est cette citation. Donc il conteste la notion même de race pure, et la justice est particulièrement flagrante lorsqu'elle prétend s'investir ici à ce qui fut en réalité un groupe de croyants recrutés jadis dans tout le monde méditerranéen, turco-khazar et slave. Ça rejoint la remarque de Kessler, c'est-à-dire que l'antisémitisme dans un tel contexte n'a pas de valeur. Je vous ai mentionné Douglas Morton Dunlop, qui a écrit une histoire des juifs khazars, alors qu'il présente comme une hypothèse faute de preuves. J'ai dit que les preuves des khazars, elles ne sont pas très nombreuses, c'est le moins qu'on puisse dire. Marc Ferro, en 2013, a écrit Les tabous de l'histoire, où il parle des khazars. Et Marek Alter, que j'ai appris entre-temps, qu'il avait écrit, et donc qui souscrit à l'hypothèse khazar. Et il a écrit un roman qui s'appelle « Le vent des Khazars ». Alors là, la construction du mythe du peuple juif unique, bon, on va laisser de côté Flavius Josèphe, c'est le début de l'historiographie de l'histoire des Juifs, de même Jacques Banage, pour commencer Isaac Marcus Jost, qui est le premier écrivain allemand, historien allemand, juif aussi, et qui écrit l'histoire des Israélites du temps des Maccabées jusqu'à nos jours, en 1820. C'est une histoire religieuse, et elle débute avec les Asmonéens. Alors, les Asmonéens, ils sont là, ce sont les Maccabées. La révolte des Maccabées a donné naissance à la communauté asmonéenne, et on verra qu'elle a quelques caractéristiques particulières. Donc, ils ignorent tout le début de la Bible, pour considérer que l'histoire des Juifs commence avec les Maccabées. Heinrich Kretz, qui est la référence avec un grand R, lui n'a pas ses préventions, et donc lui commence à partir de la conquête de Canaan, c'est-à-dire à l'époque d'Abraham. Hein, c'est là où la conquête de Canaan. Je vous laisse lire, mais il y a un bref récapitulatif de l'histoire juive, des principales étapes, évidemment, telles qu'elles sont décrites dans la Bible, et avec des personnages qui sont à la limite du mythologique. Hein. Les preuves de l'existence de Moïse, elles n'abondent pas, sauf dans les textes bibliques. Il y en a même qui disent que Salomon est un personnage mythique. C'est dit.
Hein? Légendaire, pas mythique, c'est pas tout à fait pareil.
Oui, légendaire. Oui, exact. Moses S. est le continuateur d'Imrich Grèce, qui se connaissait d'ailleurs. Il a écrit un livre qui s'appelle Rome et Jérusalem. Il a une vision racialiste, sans, c'est-à-dire ethnologique, hein. Mais on précise bien que c'est sans qu'il précise de hiérarchie des races. Pour lui, il n'y a pas de hiérarchie. Il y a des ethnies qu'on peut distinguer, mais il n'y a pas une race qui est meilleure que l'autre. Par contre, c'est le premier à revendiquer Jérusalem comme capitale d'un État juif. Ça remonte, hein. C'est en 1862. Simon Dubnov, c'est un historien russe qui a repris le flambeau à la suite de Hesse et de Gretz. Il y avait aussi un autre dont je mentionne le nom, mais j'ai manqué de temps pour aller rechercher ce qui lui est spécifique, c'est Salo Baron qui est souvent cité. Et donc, la vision de ces historiens aboutit à une conception ethnocentrée de la nation. Il faut voir que dans le slogan sioniste que j'ai vu citer dans des bouquins qui traitaient du mouvement sioniste et de Theodor Herzl, on mentionne ce slogan l'année prochaine à Jérusalem qui s'échangeait au moment du congrès sioniste. Je ne sais pas quelle est sa vérité, mais bon, je l'ai visité. La vision allemande ethnocentrée, elle est spécifique aux populations de l'Est. Shlomo Sand indique bien que, en réalité, la conception nationale en Europe, elle a été soit ethnocentrée comme en Allemagne, en Pologne, etc., ou en Autriche, et puis plutôt centrée sur les citoyens comme en France ou au Royaume-Uni. Donc, il y a une différence. Et cette différence, pour Shlomo Sand, elle est importante parce qu'il en discute à la fin de son livre et dans un autre livre, de la question de la citoyenneté en Israël, qui est un véritable problème. On pourra en discuter à travers les questions. Le mythe de l'exil. L'idée de l'exil est liée à la destruction du grand temple, pas le premier temple, curieusement, bon, à la suite de la conquête de Jérusalem par Titus. Donc c'est le premier exil. Et puis la révolte de Bar Kokhba, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, en 135, qui a été une révolte violente. Je crois que la citadelle de Masada, c'est à cette époque-là, il me semble. Et les Romains, pour essayer de régler le problème, interdisent l'entrée de Jérusalem aux Juifs. Temporairement. Mais il semblerait que c'est quelque chose qui ait conduit à l'idée de l'exil. Et la preuve qu'il n'y a pas eu d'exil, que l'exil est un mythe, c'est qu'il y a des Juifs eux-mêmes. Et David Ben-Gurion et Isaac Ben-Zvi, chef de l'État, et je crois qu'il a été Premier ministre d'Israël, un des premiers Premiers ministres d'Israël, ont écrit ensemble un bouquin qui s'appelle Israël dans le passé, dans le présent. Il n'y a eu d'exil ni en 70 ni en 135. La diminution du nombre des Juifs est due aux conversions vers le christianisme et vers l'islam. Donc l'exil est vraiment un mythe. Et en fait, quand on regarde le mythe de l'exil, c'est une invention chrétienne. En fait, si vous écoutez, si vous avez été éduqué dans la religion catholique, c'est souvent le cas chez nous. Dieu aurait chassé le peuple des Hittites et l'aurait condamné à l'errance. Voilà. Et le mythe de l'exil vient de là. Il ajoute à un autre endroit de son texte, je parle toujours de Shlomo Sand, cette remarque qui m'a paru suffisamment intéressante pour que je la cite. Dans la tradition juive, là c'est pas une citation exacte, hein, mais dans la tradition juive, l'exil a une signification symbolique. Il y a exil parce que le Messie n'est pas encore arrivé. Et il semblerait que le Talmud de Babylone, je ne suis pas familier avec le Talmud de Babylone, donc je ne peux pas dire que c'est la vérité, mais il semblerait que le Talmud de Babylone dit une tradition qui a interdit aux Juifs de converger vers Sion. Et si vous regardez, il y a des communautés de Juifs fondamentalistes, en particulier à New York, qui n'envisagent pas du tout ils défendent Israël. Rossaïm le défend, les becs des ongles. Mais ils n'envisagent pas de retourner en Israël. Ils ne feront pas leur alliance à cela. et il y en a d'autres des communautés dans le monde de juifs, qui sont des Ashkénazes d'ailleurs, hein, et qui obéissent à cet interdit de converger vers Sion, parce que la convergence vers Sion, ça annonce la venue du Messie. Les conversions vers les juifs. Là, je suis en train de traiter les différents mythes. Hein. J'espère que ça vous éclaire, que c'est ce que je suis en train de faire. Le discours dominant veut que la religion juive ne soit pas prosélyte, au contraire de la religion chrétienne. Et c'est quelque chose qu'on entend partout. Hein. C'est fou. Parce qu'au moment de la dystonie, quelquefois de manière violente, parce qu'au moment de la montée de la dynastie hasmonéenne, c'est vers 165, qui parvient au pouvoir en Judée à la révolte des Maccabées, cette dynastie est connue pour avoir pratiqué des conversions forcées, hein, comme les chrétiens de l'Empire ottoman, l'Empire romain d'Orient. Ils ont pratiqué des conversions forcées, notamment en Idumée, à l'est de la Palestine, et en Galilée. Et la discussion, il faudrait pouvoir aller consulter les sources de Chaumont-Saint. Malheureusement, il y a une quantité de sources qui sont en hébreu, et malheureusement, je ne parle pas non plus hébreu. Donc, je ne peux pas vous dire quelle est la qualité, mais il dit que la conversion des populations païennes, donc pas la conversion vers des populations chrétiennes ou plus tard musulmanes, mais la conversion des religions païennes, des animistes, était encouragée. Et il semblerait même que les païens eux-mêmes ont cherché à rejoindre cette religion qui leur posait moins de problèmes. Plusieurs dieux, ça semblait difficile à gérer, donc un seul. Il y avait juste à se conformer à ses commandements. Il y a un royaume, on a parlé tout à l'heure de Khazari, mais avant ça, il y a un royaume dans l'actuel Kurdistan et l'Arménie, qui s'appelle la Diadème, qui a été, semble-t-il, converti à l'époque antique. Et puis, dans l'Empire romain, le prosélytisme était quelque chose de très connu, il est cité par plusieurs auteurs, et les Juifs furent chassés de Rome à plusieurs reprises à cause des prêches en faveur de leur religion. Donc, ce sont des éléments qui indiquent que le prosélytisme était quelque chose de commun, et en particulier, comme pour les autres peuples, les Juifs étaient connus pour convertir leurs esclaves. L'esclavage était encore pratiqué à l'époque. Et cette pratique a d'ailleurs été interdite aux Juifs par Constantin Ier. Les raisons politiques, je ne les connais pas, il faudrait creuser un peu la question. La période du prosélytisme, elle n'est pas petite, elle s'étend du 2e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 4e siècle de l'ère commune, de l'ère chrétienne, si vous voulez. Et c'est la montée du rabbinisme qui conduit finalement à la disparition de cette pratique. Une montée progressive, et même à l'époque du rabbinisme, il y a encore des conversions. Et donc, c'est ce que je dis ici, certaines études génétiques ne peuvent expliquer leurs résultats sans la pratique des conversions. On vient à la suite, c'est-à-dire à la génétique. Alors, que révèlent les études de génétique? Je vais essayer de vous résumer les résultats. Pour mémoire, chez l'humain, pour parler de l'homme et de la femme, et de manière non sexiste, chez l'humain, donc, il y a 22 paires d'autosomes, c'est-à-dire des chromosomes non sexuels, deux chromosomes sexuels, qui sont le Y spécifique des hommes, et le X, qui est présent en deux exemplaires chez la femme et un exemplaire chez l'homme, dans le modèle standard, on va dire. Je ne tiens pas compte des formules plus rares, mais qui existent. Et il y a un ADN qu'on oublie, c'est l'ADN mitochondrial. Je crois que Thomas nous en a parlé, les mitochondries, hier. Eh bien, ces mitochondries ont un ADN. Et à quoi sert l'ADN mitochondrial? Eh bien, il est typique de la lignée maternelle. Pourquoi? Parce que, en fait, au moment de la fécondation, il y a des mitochondries dans l'ovule et des mitochondries dans le spermatozoïde, mais les mitochondries du spermatozoïde sont détruites. Et donc, ne restent dans l'œuf qui va donner un individu que l'ADN mitochondrial maternel. C'est pour ça qu'on parle d'hérédité maternelle. De la même manière, l'étude du chromosome Y permet l'analyse de la lignée paternelle, et d'un point de vue global, ce sont les autosomes qui vont permettre l'analyse des individus. Voilà, pour simplifier beaucoup, mais comme on va voir que les résultats ne vous infligent pas beaucoup plus de détails, ce qui sert dans les études de la génétique des populations, c'est ce qu'on appelle les SNP, ou single nucleotide polymorphisme, c'est-à-dire c'est une mutation ponctuelle quelque part dans le génome, et surtout leur combinaison à deux ou plusieurs, qu'on appelle des haplotypes, et qu'on regroupe en haplogroupe. Alors, je vous ai parlé des ramènes. Ah, c'est lui qui m'a mis sur la piste de la question de l'origine des Ashkenazes. Il a publié plusieurs papiers, dont j'essaye de résumer ici les résultats. Les études ont porté sur 1287 individus, ça commence à être conséquent, dont 8 populations juives et 74 populations non juives qui sont réparties un petit peu partout en Europe et au Moyen-Orient. Les populations locales au Caucase sont utilisées comme des substituts de Khazars, parce que les Khazars n'existent plus, je vous rappelle, ils ont disparu. Ils ont peut-être migré, mais on ne sait pas. Et les Judéens de l'époque sont représentés par des Palestiniens. Et le résultat principal, qui va vous frustrer un peu, c'est qu'il n'y a pas de résultat tranché. D'après ces résultats, on trouve que les Ashkénazes ont un génotype qui est une mosaïque de Caucasiens, d'Européens et de Moyen-Oriental, dans des proportions... que je n'ai pas précisé ici, mais bon, voilà, on retrouve ces trois composantes, plus une composante asiatique, si je me souviens bien, chez les Ashkenazes, et donc, on retrouve notamment des haplotypes et des SNP qui représentent le Caucase, ce qui validerait l'hypothèse Khazar. Dans un autre papier, qui est encore plus contesté, il localise les populations, il a mis en place, il en met en... Oui, il a créé un algorithme d'analyse des données qui lui permet de déterminer la coordonnée géographique d'origine du descendant à la fourche la plus proche, c'est-à-dire au moment où, de la dernière mutation, si vous voulez. Et en appliquant cet algorithme, il trouve des populations qui seraient à l'origine des Ashkénazes, dans le nord de la Turquie, dans des villages dont le nom ressemblerait à Ashkénaz. Alors c'est très très critiqué. Alors ça suggère évidemment que l'émigration vers Khazaria a eu lieu à partir de ce lieu. Mais ces résultats sont très critiqués par donc un auteur... de l'université de Jérusalem, si je me souviens bien, en Israël, Béar, principalement pour la première partie, et Flegontov qui fait une critique, en particulier pas vraiment du résultat, mais de la méthode. Il considère que la méthode utilisée par El-Hak pour localiser ces populations d'origine des Juifs n'est pas valide, qu'on peut pas, c'est pas possible, on ne peut pas trouver. L'origine des populations comme ça. Sauf que El-Hak, dans la réponse, lui rappelle qu'il a utilisé ce même algorithme lui-même, Flegontov et l'équipe avec qui il travaille, pour localiser une population de Sibérie. Donc, on ne peut pas mettre deux poids deux mesures. Hein. Soit les résultats de Flegontov sont aussi critiquables que ceux de El-Hak, soit il faut chercher ailleurs les critiques. On va les voir là, parce qu'on va analyser les trois composantes, autosomales, paternelles et maternelles. Pour les composantes autosomales, grosso modo, on trouve un génotype intermédiaire entre l'Europe et le Moyen-Orient. C'est une constante qu'on retrouve dans beaucoup d'articles, même on l'a vu d'ailleurs dans l'article d'El-Hak. La seule différence, c'est que la participation des Khazars est niée par certains. Pas par tous, en particulier Koppelman, donc il considère qu'il y a une origine orientale commune aux tribus d'Israël, enfin surtout aux Ashkenaz, juifs, tunisiens et turcs. Ils auraient détecté une proximité avec une population qu'on appelle les Tcherkesses dans le Nord-Caucase, mais c'est mis entre guillemets, quoi, en quelque sorte. Il n'y a aucune certitude. La contribution européenne, elle est importante. Hein. Ici, elle est de 30 à 60%, de 35 à 55% pour Brecht. Brecht dit même que les Ashkénazes sont plus proches des Européens que des populations du Moyen-Orient. On va voir un peu des raisons de cette proximité et comment on peut éventuellement l'expliquer. Et puis même, il y a un auteur, à peu près en même temps que Brecht, Zosman Distin, qui considère que les différentes populations juives de la diaspora ne partagent pas d'origine commune. Les Juifs d'Europe de l'Est sont plus proches des Italiens, qui valideraient l'idée d'une migration en provenance d'Europe. Et donc, selon lui, les Ashkenazes sont des descendants des Romains convertis au judaïsme.
Ça fait 50 minutes, parfait.
Oui, j'en ai plus beaucoup. Ouais. Tu me laisses encore un peu de temps. L'étude de la lignée paternelle, elle est plus ou moins comparable à celle des autosomes, c'est-à-dire qu'on a un pattern qui est intermédiaire entre les Européens et les populations moyen-orientales. Il y a un groupe de SNP ici qui est présent à 12% chez les Ashkenazes et qu'on retrouve à 54-60% dans les populations d'Europe de l'Est et qui pourrait être, d'après les auteurs, vous voyez, Nebel, Béar, qui pourtant était un peu opposé de la contribution car, Goldstein, pourrait être le signe d'une contribution khazare. Et un autre auteur considère que l'origine khazare n'est pas démontrée. C'est enfoncer une porte ouverte, effectivement, pour démontrer l'origine khazare, il faudrait déjà être capable d'isoler l'ADN des khazares, ce qui n'est pas le cas. Ils sont partis à l'arrivée des Mongols. Peut-être sont-ils partis à Kiev, on n'en sait rien, mais on n'a pas de traces des khazares. Et il y a un auteur qui a suggéré qu'on fasse des études de l'ADN des populations de l'époque en déterrant des cadavres, en analysant les os, comme on le fait pour des cadavres préhistoriques. Hein. Mais pour l'instant, ça n'a pas été fait. On retrouve cette idée avec deux autres haplogroupes qui sont présents soit chez les Pachtous en Afghanistan, les Ouïghours et les Hazaras au Pakistan, ce qui suggère qu'il y a une origine. Alors c'est plus tout à fait le Caucase, hein, le Pakistan et l'Afghanistan, mais enfin bon, une origine d'Europe orientale. La lignée maternelle, elle est beaucoup plus tranchée. C'est l'étude la plus précise que j'ai trouvée. Et pour résumer, 81% de l'ADN mitochondrial vient d'Europe occidentale. Seulement 8% du Proche-Orient. Et apparemment, donc, aucune trace d'ADN mitochondrial provenant du Caucase. Encore une fois, la question de l'origine des populations du Caucase reste posée. Il paraît même que l'origine de la lignée maternelle date de l'Europe préhistorique. Donc c'est un génotype qui était très bien installé en Europe à l'époque. L'assimilation du génome mitochondrial chez les Ashkénazes remonterait à un peu plus de 2000 ans, soit antérieurement à la destruction du continent, et impliquerait probablement des populations venues de Rome. Et surtout, le choix d'épouse au sein de la population européenne et la conversion de ces épouses au judaïsme. Quand on sait que le judaïsme, normalement, est transmis par les, par la lignée maternelle, ça paraît un petit peu bizarre. À noter qu'une hérédité maternelle locale, on la retrouve aussi dans d'autres populations diasporiques, notamment en Inde, en Afrique de l'Est et d'autres populations au Moyen-Orient, en Turquie, etc. On passe, c'est bientôt fini. Voilà, c'est le dernier aspect. Dernier aspect qui est intéressant aussi. Le modèle rhénan postule qu'une fraction de la population juive d'Allemagne, environ 50 000, a migré vers le 15e siècle, vers la Pologne et la Lituanie, parce qu'elles étaient plus tolérantes. 50 000, hein, environ. En 1900, on comptait environ 7 millions de juifs en Europe, la majorité étant en Europe de l'Est. Le taux de croissance implicite de ce modèle est appelé miracle démographique juif, j'en ai parlé au début, par un auteur de la Pergola. Et pour vous préciser les choses, le taux de croissance annuel résistant des juifs de 1500 à 1650, c'est-à-dire de là à là, est de 1,7 à 2%, et dans le même temps, le taux de croissance de la population polono-lituanienne était de 0,18 à 0,21, ce qui donne un taux de croissance 10 fois plus élevé pour les juifs que pour les populations qui les environnent. Ça pose un problème, sérieux. L'étude de Della Pergola, elle est représentée ici. En fait, ce n'est pas l'étude d'origine, c'est une recomposition de l'auteur Van Straten. Et on a l'impression que finalement, les taux de croissance annuels ne sont pas si différents que ça. Hein, on est peut-être revenu à une situation un peu plus normale. Sauf que quand on fait quand on calcule la croissance de la population entre 1170 et 1765, la population juive se croît 130 fois, alors que dans le même temps, la population européenne s'accroît de 4,6 fois. Donc, clairement, et ça malgré les famines, les restrictions, j'en ai parlé, hein, les juifs n'étaient pas les populations les plus favorisées de l'Europe. Hein, pas besoin de vous préciser. Donc, malgré tout ça, ils auraient eu un taux de croissance absolument phénoménal. Ça semble pas crédible. La prochaine diapositive, s'il te plaît. Alors, une cause possible de l'accroissement important des populations, je vous ai pas mis toute l'étude, elle est intéressante, hein, mais je la mettrai en référence de la présentation. Mais une des causes, alors ça a été corrigé notamment pour les immigrations, parce qu'il y a eu beaucoup de juifs qui ont émigré aux États-Unis, même pendant la période antérieure au nazisme. Et donc, il a corrigé ses calculs avec ça. Mais il a regardé quand même si l'accroissement des populations juives pourrait être dû à l'âge des jeunes filles. Et ce qu'on constate, les juifs sont là, 36%, les catholiques sont là, 34%. C'est plutôt comparable, hein. C'est l'âge des jeunes filles qui se sont mariées à 20 ans ou plus jeunes. C'est la proportion. La proportion des jeunes filles qui sont mariées à 20 ans ou plus jeunes. La proportion est équivalente entre les juifs et les non-juifs. Hein. Et elle est même un peu moins bonne que pour les orthodoxes, qui représentent la population locale. Et quand, donc il a choisi de faire des estimations à partir des données fournies par la littérature, et l'estimation du nombre de juifs en Europe de l'Est au moment de la migration, je vous commande pas le tableau, mais je vous mets le résultat ici. Vers la Pologne au XVIe siècle se situe entre 460 000 et 860 000, sans comparaison avec le nombre total de juifs présents alors en Europe occidentale, qui était estimé à 150 000, dont 50 000 ont émigré vers la Pologne. Ça semble crédible, mais ça veut dire qu'ils ont rencontré sur place une population juive déjà installée et qui était importante. Alors, dans les textes, quand on lit, cette population était probablement essentiellement paysanne, peu éduquée, et ce qu'aurait amené les juifs d'Europe de l'Ouest, d'Europe occidentale, c'est un niveau de civilisation qui manquait un peu à ces juifs installés. Donc ces valeurs sont incompatibles avec le modèle rhénan et impliquent soit une autre migration, quelque part, je vous ai montré une carte tout à l'heure avec des flèches avec les migrations, mais quelle migration est à l'origine de ce nombre total de juifs? Il y a les Khazars, entre autres, l'hypothèse. Hein. et des conversions en masse. On rejoint le problème de tout à l'heure. Conclusion plus ou moins provisoire. Donc, la génétique montre que l'unité ethnique est un mythe. Les Ashkénazes sont mélangés comme le reste de la population, même si il faut quand même reconnaître que du fait de la pratique religieuse, de l'ostracisme dont ils ont souffert, ils ont formé des isolats et il y a un taux d'endogamie qui est supérieur à la moyenne. Il y a eu une part importante de la migration vers le monde contemporain datant d'avant 70 et qui résulte donc probablement de migration volontaire, puisque dans le schéma de l'exil, la destruction du Second Temple, c'est ce qui déclenche l'exil. Or, ces migrations sont antérieures. Et on sait, d'après des auteurs latins, qu'il y avait déjà beaucoup de juifs à Rome avant 70. Les éléments migrateurs sont principalement des hommes. Pourquoi des hommes? Parce que les femmes, justement, elles sont principalement locales. Donc ceux qui ont, semble-t-il, migré, ce sont les commerçants qui allaient faire leurs courses un peu partout en Europe, et puis qui ont fini par s'installer dans les régions qui visitaient. Les femmes, elles, dans leur grande majorité, sont d'origine européenne, qui implique des conversions importantes. La participation des Khazars est indétectable avec les méthodes actuelles, et donc on ne peut pas supporter le modèle de la 13e tribu. Le modèle réaliste n'est pas vraiment... on vient de le voir. Et donc, voilà. C'est tout.
C'est tout. Je suis prêt à répondre aux questions.